Le procès de l'ancien président américain Donald Trump commence aujourd'hui avec les déclarations d'ouverture. Qui va payer les énormes déficits des sociétés de transport en commun dans le Grand Montréal?
La pire des solutions, c'est une réduction de l'offre de services.
Un affrontement se dessine entre Québec et les maires. Et à quand un système bancaire plus ouvert au Canada?
C'est sûr que notre application de budget, l'appli de recommandation de produits financiers, fonctionnerait beaucoup mieux, donc on n'aurait pas ces déconnexions de comptes.
Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio Journal. C'est aujourd'hui qu'on entre dans le vif du sujet dans le premier procès au criminel d'un ex-président américain. Donald Trump est accusé d'avoir tenté de dissimuler des paiements faits à l'ex-star du porno Stormy Daniels. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Donc, après la sélection du jury la semaine dernière, les procureurs vont présenter ce matin aux jurés ce qu'ils entendent leur prouver au cours des prochaines semaines.
Oui, Mathieu. Et ce matin, donc, ça va commencer avec les plaidoirie d'ouverture des avocats des deux partis, ceux de Manhattan et ceux de Donald Trump. L'ancien président américain, donc, qui fait face à 34 chefs d'accusation. On lui reproche d'avoir falsifié des documents dans le but de cacher des paiements à l'actrice de films pornographiques Stormy Daniels, avec qui il aurait eu une relation intime, ce qu'il nie. Des paiements, Mathieu, totalisant 130 000 $ qu'il aurait fait pour acheter son silence parce qu'il craignait que ça nuise à sa première campagne électorale, celle de 2016. Alors, donc, les membres du jury sont 12, il y a 7 hommes, 5 femmes, devront déterminer donc si Donald Trump est coupable ou non. Je vous propose d'écouter à ce sujet Olivier Piton, c'est un avocat en droit public américain.
On est clairement sur la négation ou la dénégation et la victimisation. Et du côté de l'accusation, eh bien, ça va être aussi assez classique, c'est de démontrer qu'il y a eu un maquillage statistique, un maquillage financier.
Est-ce que Donald Trump pourrait être écarté de la course à la Maison-Blanche s'il est trouvé coupable?
Oui, c'est la grande question. Non, parce qu'en vertu de la Constitution américaine, même s'il est reconnu coupable, Donald Trump pourrait tout de même devenir président américain s'il remporte le scrutin du mois de novembre. Mais ce qui est certain, Mathieu, c'est que ce procès va compliquer, ça va ralentir sa campagne parce qu'il devra régulièrement être présent au tribunal. Et également, bien, c'est un procès là, que les démocrates, l'équipe de Joe Biden, là, espèrent bien tirer profit.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Un nouveau bras de fer s'engage entre les 82 maires de la grande région de Montréal et le ministère des Transports du Québec. Les élus municipaux somment le gouvernement d'éponger le déficit de plus de 560 millions de $ qui marque le budget du transport collectif pour l'année 2025. Dans une lettre adressée à la ministre Geneviève Guilbeault, ils expliquent que si elle n'intervient pas, ils envisagent différents scénarios pour payer la facture, comme augmenter les taxes municipales, augmenter le prix du transport en commun ou encore couper dans les services. La pire des options, selon le porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud, Axel Fournier.
La pire des solutions, c'est une réduction de l'offre de service. D'abord parce que le service a déjà été réduit. Là. On le constate, qu'on prenne l'autobus ou le métro, les lignes n'ont pas la même fréquence qu'elles avaient en 2019. Et le résultat de ça, c'est un réseau qui est dans son ensemble moins bon et qui concurrence moins bien l'automobile.
L'année dernière, la ministre Geneviève Guilbeault avait accepté à la dernière minute de payer 70 % de la facture. Pour la première fois au Canada, des employés de la multinationale Amazon tentent de former un syndicat. Les travailleurs de l'entrepôt DXT4 à Laval ont déposé une requête en accréditation, première étape en vue de la création d'un syndicat. Il faut maintenant que le tribunal administratif du travail valide les signatures des employés. Amazon pourrait ensuite contester cette liste. La démarche soutenue par la CSN a pour objectif de permettre aux éventuels syndiqués d'améliorer leur salaire, de réduire leur précarité et d'accroître la sécurité au travail. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul syndicat reconnu dans un entrepôt d'Amazon en Amérique du Nord. C'est celui de Staten Island, dans l'État de New York. Au Québec, des quartiers entiers sont peut-être sous la menace de la rupture d'une digue sans que les résidents ni même le gouvernement ne soient au courant. 5 ans après les inondations dévastatrices de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Québec est dans le flou sur l'état de toutes les digues sur son territoire. C'est un problème soulevé par un comité d'experts qui conseille Québec pour ses nouvelles cartes de zones inondables. Voici le reportage d'Élise Allard.
Je suis vraiment fatiguée.
Nathalie Duval est enlisée dans la rénovation de sa résidence. Il y a 5 ans, l'eau s'y était infiltrée lors du bris de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.
Fatiguée de tout ça, là, parce que ça finit plus. Puis là, elle n'est pas encore terminée parce que c'est difficile d'emprunter, parce que jusqu'à dernièrement, on est encore en zone inondable.
C'est ce que pourraient vivre des milliers d'autres Québécois au cours des années à venir, alors que le gouvernement s'apprête à publier ses nouvelles cartes des zones à risque d'inondation. Rien n'indique, cependant, cependant si les territoires derrière les digues s'y retrouveront, comme le prône l'hydrogéomorphologue Pascal Biron, l'une des scientifiques qui a conseillé le gouvernement.
Il y a une méthode qu'on appelle de transparence hydraulique qui est employée ailleurs, en Europe notamment, où on doit présumer qu'il n'y en a pas de digues, vérifier quelles seraient les zones inondables dans ce cas-là, et ensuite intégrer ça dans la cartographie.
Un scénario de plus en plus probable, selon le professeur en hydroclimatologie de l'UQAM, Philippe Gachon.
Au cours des prochaines années, on va faire face évidemment à des phénomènes extrêmes qui vont engendrer ce qu'on appelle des flash floods, donc des inondations extrêmement rapides suite à des gros événements de précipitation.
Le ministère de l'Environnement admet ne pas détenir un répertoire des digues, mais d'y travailler à l'élaboration d'un registre des ouvrages de protection individuelle du genre. Ici Élise Allard, Radio-Canada, Montréal.
Ottawa a rappelé dans son dernier budget qu'il compte implanter un système bancaire ouvert. Il s'agit d'une technologie qui peut permettre aux entreprises de recevoir des paiements directement sur le compte bancaire d'un client avec son consentement, sans qu'il ait à se connecter à une banque en ligne. Ce modèle facilite le transfert de données et peut permettre une baisse des frais bancaires. Mais le gouvernement prend son temps pour le mettre sur pied, ce qui agace bien des entreprises de technologie financière. Philippe de Montigny.
Le secteur des technologies financières attend avec impatience l'arrivée d'un système bancaire ouvert au Canada, un processus qui traîne depuis 6 ans.
Je suis un peu déçu.
Julien Brault est PDG de l'entreprise montréalaise Heartbacon. Un système bancaire ouvert permettrait aux Canadiens de partager leurs données financières en toute sécurité entre leurs banques et des applications, que ce soit pour obtenir leur code de crédit, gérer leur budget ou encore évaluer des options de prêt, par exemple.
C'est sûr que notre application de budget et puis de recommandations de produits financiers fonctionnerait beaucoup mieux, donc on n'aurait pas ces déconnexions de compte.
Bien que ce genre d'application soit déjà populaire, leur façon de récupérer les données des consommateurs actuellement laisse à désirer, selon l'avocate Parna Sabet Stevenson.
Ils sont en train de partager leur nom d'utilisateur, les mots de passe, afin de pouvoir partager l'information. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de risques.
There is still some lack of clarity around timelines.
Andrew Chow, PDG de Neo Financial, dénonce le manque de clarté dans le budget fédéral. Selon lui, l'absence d'un système bancaire ouvert limite la croissance de la jeune pousse de Calgary. Une agence fédérale sera chargée d'élaborer un cadre réglementaire pour ce nouveau système bancaire. Ottawa s'engage à fournir plus de détails cet automne. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.
De nombreux organismes et militants environnementalistes sont mobilisés pour célébrer aujourd'hui le jour de la Terre. Au Québec, le secteur des transports, responsable de près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, est dans leur mire. Mais certaines entreprises croient qu'il est possible de changer la donne en rendant la livraison de colis moins polluante. Reportage de Karine Matheux.
Mon rêve à moi, c'est de laisser une entreprise qui était plus verte pour le Québec.
Catherine Pinard est la présidente et la chef de la direction de Nationex, une entreprise québécoise de livraison de colis. Depuis un an, elle a acheté 40 camions électriques déployés dans différentes villes.
Donc, on a ouvert ces zones-là, Montréal-Québec, puis là, on a ouvert Chicoutimi, Trois-Rivières, Drummondville. À toutes les semaines, on essaie d'ajouter, on a tout un calendrier de déploiement pour nos camions électriques, ce qui va nous empêcher d'y arriver à la vitesse qu'on voudrait, c'est la disponibilité des camions.
C'est une plateforme d'envoi, mais encore avec une option, s'ils le désirent, pour les derniers kilomètres, d'utiliser une décarbonisation, vélo, véhicule électrique.
La plateforme de gestion et de livraison de colis Envoi Québec accorde elle aussi une place grandissante à la livraison plus verte, explique Damien Silaise du Conseil québécois du commerce de détail.
15 % de colis qui étaient éligibles aux livraisons décarbonées, et donc on a pu, en 3 ans, d'avoir 20 tonnes de GES qui ont été sauvées grâce à ce système de décarbonisation des transports.
Selon l'étudiante au doctorat Suzanne Piri, il y a un intérêt pour la livraison en vélo-cargo dans les villes.
Ça fonctionne bien, c'est sûr que ça prend une forte volonté politique. L'enjeu, c'est toujours de pouvoir continuer à développer, que ce soit stable, que ce soit pérenne financièrement, etc.
Ici Karine Matheux, Radio-Canada, Montréal.
Karine reviendra sur le sujet ce soir à l'émission « Ça nous regarde ». Voilà, c'était le Radio-Journal. Pour plus de détails, pour d'autres nouvelles, je vous invite à consulter notre site Internet ou encore notre application mobile Info. Ici Mathieu Bellumeur, au nom de toute l'équipe, merci d'être à l'écoute. Bonne journée.